Bonjour à toutes et bonjour à tous, et vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Nous sommes dans la troisième partie de l'émission Sortez, consacrée aux assises du journalisme de Tours qui vont se tenir prochainement. Et nous avons l'honneur de recevoir dans cette troisième partie Laurie-Anne Chollet. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Bonjour, ainsi que Lucas Wiki.
Bonjour.
Et merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Et nous sommes toujours avec Zachary. Zachary, tout va bien ?
Tout va bien.
Ça va, tout bien, le choc. Alors, Laurie-Anne Chollet, vous êtes journaliste à Reporter. Alors, c'est pas grave, le grincement des micros, c'est pas grave. Mais vous êtes journaliste à Reporter. Alors, peut-être pour situer nos auditeurs qui ne seraient pas encore familiers avec ce média, qu'est-ce que Reporter, finalement ?
Bien sûr, alors Reporter, c'est le quotidien de l'écologie. On publie tous les jours environ 5 articles et on est un média libre, c'est-à-dire sans actionnaire. Et on vit à quasiment 100% des contributions d'électrices et d'électeurs. Et on n'a pas de paywall en fait, nos articles sont en accès libre parce qu'on considère que l'information est un bien commun. Donc quiconque, quels que soient ses moyens, doit pouvoir s'informer sur les questions climatiques, les questions écologiques. Et en fait, nous, on fait de l'écologie, j'ai envie de dire, dans large. C'est-à-dire qu'on fait de l'écologie politique, de l'écologie sociale, on suit les luttes climatiques, on suit les questions sociales, parce qu'on considère que ça fait partie d'un tout. Et on ne peut pas juste s'occuper du climat ou de la biodiversité, en fait.
D'accord. Lucas Wiki, vous êtes journaliste chez Brut. Alors, quelle est votre fonction ? Je crois que vous avez une fonction en lien avec, justement, les questions environnementales.
C'est ça exactement. Alors moi je suis journaliste chez Brut depuis 4 ans et je m'occupe plus spécifiquement des questions d'environnement, mais d'environnement au sens très large. Ça va aller du climat à l'activisme climatique, aux solutions mises en place par différents acteurs sur ces questions-là. Voilà, une approche vraiment très large de la question écologique.
Première question pour vous deux, histoire de voir un petit peu, quel est votre parcours, notamment quand... Comment on en vient finalement à s'intéresser au journalisme environnemental ? Est-ce que vous êtes d'abord passionné par le journalisme ou alors par les questions environnementales ou c'est un mix des deux ?
C'est une bonne question parce que je vois qu'autour de moi, dans les journalistes qui traitent ces sujets d'environnement, c'est assez différent, ça va différer pas mal entre les profils. Et pour mon cas, c'est plutôt venu par l'écologie en fait. Assez jeune, dès le lycée, j'ai eu des engagements sur cette question-là dans différentes associations. Et c'est après que je me suis dit, c'est vrai que sur ces questions-là, l'information, c'est vraiment une clé d'apporter la compréhension aux gens pour qu'ils se rendent compte de l'état des crises actuelles sur ces thématiques-là et qu'ils puissent ensuite en agir en fonction. Et donc, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de raconter l'étendue de ces crises, les causes, les conséquences. J'ai envie de raconter quelles sont les personnes qui se battent pour changer les choses sur ces questions-là, comment elles font aussi sur certains sujets où il n'y a pas forcément de réponse tout blanc ou tout noir et qui sont plus complexes. C'est d'apporter de la nuance, de la complexité. Je pense à la question des pesticides, par exemple, ou du nucléaire. Voilà, c'était vraiment ça où je me suis dit, l'engagement militant c'est quelque chose, mais moi je pense que mon rôle et ce que j'ai envie de faire c'est plus porter cette parole-là et porter des éléments qui vont permettre aux autres ensuite peut-être de s'engager.
Marie-Laure ?
Lauriane, c'est dans le sens, c'est pas grave. Moi je suis arrivée sur ces questions professionnellement plus tard, à partir de 2016, même si c'était quelque chose qui faisait, en fait ça faisait partie de ma vie, mais j'ai commencé le journalisme ailleurs, dans des médias plus mainstream, dans des médias où il y avait de la pub, je prenais beaucoup l'avion, et en fait le fossé entre mes convictions personnelles, politiques et mon travail, il se faisait tous les jours un peu plus profond. Et je pense que je suis vraiment pas la seule de ma génération à avoir des convictions politiques personnelles et à avoir un travail qui n'a rien à voir. Et un jour, j'ai tout abandonné en me disant en fait, il faut que je réunisse les deux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour des médias plus engagés et sur les questions d'écologie et de lutte sociale. Je couvre beaucoup les luttes sociales aussi.
Alors, vous parliez de vos convictions qui ont été, enfin du creux entre vos convictions et peut-être la réalité qu'il y a derrière les grands médias. On sait que l'information est quand même aujourd'hui malheureusement un objet de consommation. Et est-ce que finalement, en tant que média qui traite principalement des questions environnementales, mais je crois que c'est pas que ça. Est-ce que vous arrivez à vous faire une place finalement parmi les médias un peu plus mainstream?
On va pas avoir la même réponse tous les deux. Bah, en fait, ça dépend quelle place on veut avoir. Nous, on voudrait que l'écologie, elle soit au cœur des préoccupations de toutes et tous. Aujourd'hui, on a 1,2 million de visiteurs uniques par mois, ce qui est pas mal. Et évidemment, c'est pas à la hauteur de certains médias qui peuvent s'acheter de la publicité, qui ont des centaines de salariés. Nous, on n'est que 12 journalistes à temps plein, plus beaucoup de pigistes. Donc, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras. Mais je pense qu'on participe à, comme disait Lucas, à expliquer des enjeux qui sont complexes. Et donc, c'est pas forcément toujours très facile, hein, de vouloir entrer dans le débat sur le nucléaire, notamment, parce que c'est un sujet qui nous divise beaucoup. Mais je pense qu'on a une place en tant que médias spécialistes, et j'ai l'impression que les médias plus généralistes, parfois, viennent un peu piocher chez nous des idées. Je pense, par exemple, à France Inter, avec qui on a un partenariat avec l'émission La Terre au Carré, de Mathieu Vidard et Camille Cronier, où souvent ils font des... Donc l'année dernière, on faisait des chroniques sur nos articles, et cette année, on parle des luttes, donc des luttes environnementales. Toutes les semaines, il y a une chronique sur une lutte environnementale qu'on fait en partenariat avec eux. Et ils nous disent, parce que vous savez où aller chercher, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, en fait, c'est ces échanges qu'on peut avoir entre nous qui sommes peut-être très spécialisés, parfois un peu pointus, et des médias plus généralistes qui arrivent à globaliser la question et avoir plus d'audience.
Chez Brut
Alors, je vais peut-être déjà redonner juste quelques infos pour présenter un petit peu Brut, parce que tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, c'est un média qui a été créé en novembre 2016, donc qui est très récent également. C'est un média qui a été créé à la base uniquement sur les réseaux sociaux, avec des formats plutôt courts. Et l'idée, une des idées à la base, c'était certes d'utiliser un format, des codes assez nouveaux dans la narration, mais de parler de sujets de fond, de parler de sujets à enjeu, notamment l'écologie, mais aussi des sujets sur les discriminations, le féminisme, d'autres enjeux de société, etc. Et surtout, d'essayer d'aller chercher un public qui va plus forcément consulter la presse traditionnelle, les journaux ou les médias mainstream, comme vous disiez. Et pour toucher ce public, contrairement peut-être à Reporter, nous, on va pas avoir du tout une approche spécialisée. On va devoir s'adresser à des gens qui peut-être n'ont jamais entendu parler de certains enjeux écologiques. Et donc, on va devoir à la fois traiter d'un maximum d'enjeux tout en essayant de le rendre compréhensible par le plus grand nombre, mais aussi essayer de ne pas rebuter des gens qui peut-être n'ont pas d'engagement, mais qui pourraient s'intéresser, essayer de trouver justement la manière d'intéresser les gens, de faire des portes d'entrée sur différents sujets liés à l'écologie, et pas que certaines personnes aient l'impression qu'à travers nos sujets, on les prenne comme des gros nuls parce qu'ils n'auraient pas le bon comportement, etc. Donc, une approche peut-être plus grand public, tout en essayant, sur les enjeux climatiques, etc., de quand même apporter les faits scientifiques, ce que nous disent, on traite souvent les rapports, le rapport du GIEXOR, l'IPBES sur la biodiversité, on essaie de donner des clés d'information là-dessus, d'aller quand même un petit peu dans le détail, mais voilà, que cela se fasse en parallèle d'autres formats qui vont permettre de traiter ces thématiques, mais de manière peut-être beaucoup plus grand public.
Alors, vous parliez justement du rapport aussi avec entre les journalistes et les scientifiques, qui semble quand même important et qui pourrait permettre d'ailleurs de structurer les débats, de remettre peut-être un peu de verticalité dans tout ça. Alors, quel est votre rapport à deux médias qui sont quand même différents, à la parole scientifique?
Moi, je pense que c'est des principes, enfin, c'est nos sources, en fait. Ce sont des gens qu'on appelle très souvent. Notamment, je pense à mon collègue Alexandre Zakokabi, qui lui, vraiment spécialiste des questions climat. En fait, quand on est journaliste, on sait rien, mais on sait à qui demander. Et du coup, c'est ça, en fait. On est des passeurs d'informations. Donc, évidemment, on n'est pas climatologue. En revanche, on sait quelles questions poser. Et on essaye, autant que possible, de synthétiser la pensée complexe des scientifiques et de la vulgariser sans la déformer. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire chez nous, parce que c'est quand même des questions très compliquées, mais néanmoins, je me souviens par exemple, Hervé Le Treut, qui est un grand climatologue, disait « Si vous n'êtes pas capable d'expliquer à des lycéens ce que vous faites, c'est que votre travail n'est pas bon, en fait. Il faut être capable, il faut pas avoir bac plus 20 en chimie ou en physique pour comprendre, en fait, le climat. Sinon, on perd les gens. » Voilà, donc ça, c'est un gros enjeu, en fait, de vulgariser la masse d'études qu'il y a. Nous, on en reçoit tous les jours, on ne sait plus quoi en faire. Et on a toujours un peu l'impression qu'elles disent toujours la même chose en plus et qu'elles sont de plus en plus alarmistes.
Chez Brut, le rapport avec les scientifiques, ils sont souvent invités sur, sur, sur vos petites pastilles sur les réseaux sociaux.
Bah, je me reconnais totalement dans ce que dit Lauriane, c'est exactement pareil. On a nos références scientifiques sur les différents thèmes, que ce soit sur, sur le climat, comme tu le disais, sur la biodiversité, etc. On va avoir des contenus plus décryptage qui expliquent des phénomènes scientifiques sur ces enjeux environnementaux, où là, ça va être notre source primaire. Mais même quand on va interroger un activiste, quand on va montrer des solutions, je sais pas, une entreprise qui met en place certaines mesures sur les déchets ou d'autres questions, on va toujours chercher à vérifier les chiffres qu'ils nous donnent ou à mettre des chiffres de contexte, des données de contexte qu'on va aller piocher dans des organismes publics comme l'ADEME, chez le GIEC quand il s'agit du climat ou le Haut Conseil pour le climat, chez quand il s'agit de la biodiversité, des instituts comme l'IUCN ou l'IPBES, etc. etc., etc. C'est vraiment le rôle central du journaliste de vérifier ce qui se dit et d'apporter du contexte, de mettre en perspective, même quand on parle de choses qui sont des choses très grand public.
Donc, ce qui est assez intéressant avec vos médias, qui sont d'ailleurs des nouveaux médias sur Internet et qui sont, en tout cas pour Brut, qui sont aussi destinés à un public peut-être plus jeune, c'est que vous choisissez vos thématiques de façon volontaire, sans, peut-être avec moins une imposition, pas forcément d'un agenda, mais de ce qui fait le buzz, etc. Vous choisissez vraiment vos sujets. Qu'est-ce que vous avez, c'est quoi votre rapport avec l'expression de journaliste engagé ou militant? Est-ce que vous pouvez vous auto-décrire comme ça? Est-ce que c'est au contraire, vous pensez que c'est une appellation qui vous dénigre, qui vous est renvoyée? Quelle est votre position sur cette expression?
Alors, c'est un sujet très intéressant. Moi, je pense que quand on dit journaliste militant, c'est pour dénigrer une parole qui dérange. Et évidemment, nous, nos articles, ils dérangent. Aujourd'hui, moi, je me dis plutôt journaliste engagé, dans le sens où je n'occulte pas des faits qui ne pourraient pas forcément aller dans le sens où j'aimerais que ça aille. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer des opposants, par exemple, je vais faire un exemple très, très concret. La semaine dernière, je suis allée en reportage à Niort voir des militants qui luttent contre des bassines, donc c'est des immenses bassins d'irrigation qui vont servir à l'agriculture industrielle. On me donne plein de chiffres, on me dit que c'est vraiment quelque chose d'horrible, c'est un écocide, etc. Ben, d'accord, c'est bien, mais moi, je vais aller chercher de l'autre côté, du côté de ces agriculteurs productivistes, du côté de ces gens qui veulent ces bassines, pourquoi ils les veulent, est-ce qu'il y a un intérêt? Et forcément, ça va pas vraiment dans le sens des opposants, mais moi j'estime que le plus important, c'est d'être honnête en fait dans ces papiers et de donner aux lectrices et aux lecteurs les faits les plus honnêtes possibles, et après, il se fera sa propre opinion. Moi, je suis pas une donneuse de leçons en fait, je suis là pour apporter des faits, et mais souvent en fait, c'est tellement gros que les gens, ils se disent « Ah oui, ces bassines, c'est quand même pas terrible, en fait. » Parce que je leur ai apporté des faits justes et honnêtes, voilà.
C'est toujours une question très intéressante et qui revient souvent dans le débat public. Et je pense pas qu'il y a forcément une bonne réponse à ça. Moi, je me suis souvent questionné par rapport à cette question. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais commencé par l'associatif sur les questions d'écologie. Et en fait, je pense qu'il a changé au moment où je suis devenu journaliste et où j'ai voulu faire du journalisme, c'est que je me suis beaucoup plus autorisé, même forcé, à douter, à écouter une pluralité de voix sur un sujet, et même, comme disait Lauriane, des voix qui n'iraient pas forcément dans le sens de mes convictions. Ce qui permet à la fois d'apporter de la complexité au sujet, parce que sur l'écologie, il n'y a pas de sujet simple, et qui permet de donner un maximum d'informations pour que les personnes qui ensuite vont consulter les articles ou les vidéos puissent se faire un avis intéressant. Et je pense que c'est même pour les gens qui portent les combats, tu donnais l'exemple, par exemple, des bassines, ça ne va pas aller forcément contre leur combat, parce que s'ils occultent une partie des faits et qu'ils ne s'attaquent pas à des aspects qui de prime abord iraient peut-être à l'encontre de leur discours, bah, ils ne vont pas mettre en place des solutions, des réponses ou des critiques qui vont jusqu'au bout des choses et qui prennent en compte toute la complexité du problème. Donc je pense que ça permet eux aussi de voir quels sont les arguments des gens qu'ils ont en face d'eux et de savoir comment ils peuvent construire un discours pour s'y opposer, comment ils peuvent apporter des réponses. Peut-être par exemple, je sais pas, tout un courant de l'écologie qui, à une période, n'avait pas forcément pris en compte suffisamment la question de la justice sociale dans la transition écologique. On l'a vu avec la crise des gilets jaunes, où la réponse pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'était de mettre en place donc des taxes sur le carburant. On a bien vu le résultat avec la crise des gilets jaunes. Et donc, peut-être que si on avait plus interrogé avant cet aspect de justice sociale dans la mesure proposée, ça aurait pu permettre de pousser plus cette mesure et de réfléchir à des mesures d'accompagnement, j'en sais rien, ou de toucher un certain type de public. Et donc pour compléter juste ceci, en plus, je dirais que ce qui est important, c'est on a tous une parole située, on a tous des convictions, on est tous dans un média avec des contraintes ou pas, des avis différents, une méthode de travail, un format qui va aussi diriger ce qu'on fait. Mais ce qui est important, je pense, c'est la méthode et la déontologie qu'on se fixe, nous, en tant que journalistes, et la méthode de travail qu'on va avoir, d'essayer de justement aller, si on a un doute, mettre en relation avec des études scientifiques, des discours scientifiques, ou essayer de voir que disent les gens qui ne partagent pas l'avis de la personne comme en avant, etc.
C'est peut-être une notion qui a été un peu longtemps laissée dans le flou, d'ailleurs, l'objectivité dans le journalisme, le fait que le journalisme, pardon, a forcément des convictions, mais que ce sont ces méthodes qui doivent être objectives, les faits qu'il rapporte qui doivent être objectifs, et non forcément son angle, qui tout le monde a finalement un angle d'attaque. Et pour vous, là, donc, vous allez participer juste après à la table ronde sur la jeunesse engagée qui interpelle les médias. Pour vous, quel est le sens là de participer aux assises du journalisme? Est-ce que justement c'est l'occasion d'échanger avec des acteurs que vous voyez pas forcément, ou quel est le sens de votre présence ici et à cette table ronde? C'est une question
Bah,
difficile.
oui, c'est toujours intéressant de pas rester un journaliste qui resterait enfermé dans son bureau et qui ne sortirait jamais, ne ferait pas du bon travail. Je pense faut toujours se confronter à ce que pensent les gens de ce qu'on produit, et nous on a l'occasion de le faire quand on sort sur le terrain ou à travers différentes occasions. Et donc là c'est parfait, et c'est intéressant si on verra les questions qui sont posées, mais ça peut permettre aussi de prendre du recul sur son travail, et de peut-être faire évoluer aussi la manière de travailler, et donner des idées d'angle, etc. Je voulais juste compléter tout à l'heure pour apporter une précision sur Brut quand vous parliez de pastilles
Oui, il n'y a pas que
une à
ça,
deux
il y a
minutes.
aussi des décryptages, vous le disiez.
Oui, c'est ça, et
Différents films.
peut-être, c'est vrai que c'est l'image peut-être qu'on a pu aussi avoir au début de Brut, parce que c'est vrai qu'au début, comme c'était vraiment quelques personnes qui ont lancé, c'était pas mal de contenu qui allait de 1 minute, 1 minute 30, et qui ont beaucoup évolué assez rapidement. Et en fait, ce que moi je trouve, un des éléments que je trouve intéressant chez Brut et qui me plaît et que j'avais peut-être pas forcément dans d'autres médias où j'ai pu passer avant, c'est qu'en fait, chez Brut, on va pas te donner une durée de vidéo avant que tu fasses ton sujet. Ou contrairement par exemple à certaines chaînes de télévision où tu as une 30, le 2, le 5, plus rare, etc. Tu traites le sujet, l'angle que tu souhaites traiter. Et ensuite, si ça permet de tenir 4 minutes, et ben ça tiendra 4 minutes. Si on peut faire un 8 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a de la complexité, et que ça, on peut le faire. Donc voilà, je voulais juste préciser sur ça.
Non, c'est très bien.
Parce que c'est vrai que comme c'est sur les réseaux sociaux, on a souvent cette impression de vidéo de 1 minute. Il y a des vidéos de 3 minutes, effectivement, mais il y a aussi, on peut aller
Par
plus loin.
ailleurs, sur YouTube aussi, alors qu'il y a moins réseau social qu'un réseau de partage de vidéos, enfin c'est des notions assez compliquées, mais en soi, vous avez maintenant de véritables reportages d'une heure, peut-être de 2 heures, je sais pas trop.
Non, on fait des lives. Il y a le format live qui est un peu initié, enfin avec d'autres, hein, mais pour lequel on est aussi assez connu, avec la figure de Rémi Buzyn, qui est un journaliste qui a commencé à Nuit Debout et qui s'est fait connaître pas mal aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes, où il passait plusieurs heures à traiter sur le terrain, au milieu des manifestations, ce qui se passait pendant les Gilets jaunes, et qui donnait aussi la voix, qui recueillait les témoignages des gens, ce qu'on n'avait pas forcément non plus dans tous les médias. Et donc il y a ces formats beaucoup plus longs, et on a aussi depuis quelques mois une plateforme payante cette fois, donc qui coûte 4,99 par mois, qui s'appelle Brutix, et où là c'est des reportages ou des enquêtes beaucoup plus longues qui vont faire 15, 20, ou qui sont parfois des séries en plusieurs épisodes qui vont faire 15, 20 minutes chacun.
D'ailleurs, j'ajoute, vous parliez de Rémi Buisine, donc qui a couvert pas mal de manifestations en tout genre depuis quelques années. Reporter a circulé cet été dans la presse parce que l'un de vos confrères que vous citiez tout à l'heure, Alexandre Reza Kozabi, a reçu en juillet une amende de 750 € pour manquement à la sécurité agroportuaire. Parce que un an auparavant, il couvrait une action du mouvement écologiste Extinction Rébellion à l'aéroport d'Orly. Selon vous, qu'est-ce que cette décision dit du rapport qu'a le pouvoir actuel avec le journalisme, donc qualifié entre guillemets de militant ? Et, en ce moment, quel est le rapport entre les autorités et le journalisme ?
Alors, c'était à Roissy.
Roissy, pardon.
C'est pas grave. Oui. Alors, c'est une question assez large. Le rapport des autorités avec le journalisme. Moi, je faisais partie d'un collectif qui luttait contre les violences policières à l'encontre des journalistes parce que, en couvrant le mouvement social, on avait littéralement peur pour notre vie, en fait. Il y a eu énormément de blessés, donc du côté des manifestants, mais du côté des journalistes, même quand on était identifiés. Il y a eu énormément de gardes à vue, énormément d'intimidation. Donc, en fait, le rapport du pouvoir avec la presse, clairement, aujourd'hui, ils essayent de museler la presse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Alexandre Reza est parti suivre une action d'Extinction Rébellion sur le tarmac de l'aéroport. Et il est allé jusque sur le tarmac. Et en fait, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, il a suivi les militants. Il a fait ses petites photos, etc. Et il s'est fait embarquer avec tous les autres militants. Normalement, autrefois, il aurait dû arriver au commissariat. Il aurait dû montrer sa carte de presse. Ah oui, pardon, désolé, rentrez chez vous. On a embarqué tout le monde, mais désolé. Lui, il a fait la même garde à vue que les militants. Et il a une amende qui est la même que celle que les militants ont reçue. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on a le droit de couvrir, en fait ? Est-ce qu'on a le droit de couvrir quelque chose d'illégal pour montrer un message politique fort qui est aujourd'hui, le transport aérien est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre ? Donc est-ce qu'on doit continuer à avoir autant d'avions qui volent dans le ciel ? C'est une question politique en fait qui est posée à travers cette action. Et nous, reporters, quand on va couvrir cette action, on veut enclencher un débat politique et public là-dessus. On va pas juste parce qu'on trouve ça sympa en fait. Et la question vraiment, elle s'est posée par exemple, il y a des journalistes qui ont couvert, c'était l'année dernière, des déboulonnages de statues pendant, vous savez, il y a eu un gros moment de débat sur le colonialisme, est-ce que les statues qui représentent des héros de la colonisation ont la place, enfin voilà, sur la place publique. Voilà, et donc les médias en Belgique qui ont suivi des militants qui vont déboulonner, eh ben, pareil, ils ont été condamnés. Donc, en fait, où on met cette limite, en fait ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Et ça, c'est des débats que nous, on ne veut pas trancher, en fait. C'est des débats à mettre sur la place publique. C'est des débats de démocratie. Et nous, on estime qu'en fait, il faut aller couvrir ces mobilisations. Il faut aller couvrir ces actes qui sont illégaux. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une urgence climatique qui est telle qu'on ne peut pas juste laisser faire ça.
Bien, c'est une conclusion sur donc, le rapport qu'il y a aujourd'hui, peut-être un rapport assez tendu finalement entre les journalistes et le gouvernement en place. Eh bien, je vais vous remercier d'être venu sur les ondes de Radio Campus Tour, pardon.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et j'espère que vous allez, enfin, la table ronde se déroulera convenablement et qu'il y aura du monde. Je mets tout de suite une petite pause musicale qui marque donc la fin de cette émission. On se quitte avec un son qui concerne finalement la question écologique. C'est un son local. Il s'agit de Radio Byzance, The Amazon is Burning. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Amazing.